Bonsoir, nous allons donc commencer cette soirée. Donc, nous sommes récemment passés tout près d'une nouvelle coupe dans les crédits alloués à la recherche publique. Acharnement incompréhensible, non compensé par les rares mouvements de balancier dans l'autre sens, si régulièrement accompagné de complexités administratives et d'empiétements sur nos libertés qu'ils font parfois redouter l'obol. On doit donc craindre qu'en dépit des protestations, la recherche française, aujourd'hui encore excellente, finisse par décrocher. Mais ce pessimisme concerne surtout la recherche expérimentale, puisque les mathématiciens français semblent assurés de maintenir leur suprématie au niveau mondial. Vous en êtes, cher Claire Voisin, un brillant exemple. Un de vos collègues a calculé que si la France avait reçu depuis 20 ans la même proportion de prix Nobel scientifique que de médailles Fields, cela ferait 69 Nobel au lieu de 7. Certains avancent que c'est parce que les mathématiques ne coûtent pas cher et que les autres disciplines feraient mieux si leur crédit était plus important et leur liberté mieux respectée. Il y a là du vrai, et si notre nation tient encore, malgré tout, son rang dans les sciences expérimentales, c'est probablement du fait d'une forte tradition scientifique, d'école de pensée. Perdre cette culture, faute de l'arrivée de jeunes dans nos métiers, notre angoisse première, marquerait un déclin possiblement sans retour. Mais les succès des mathématiciens ont aussi d'autres explications. Si, comme ailleurs, la culture y est essentielle, cet atout est plus fort dans cette discipline du fait de sa place dans les études secondaires. On doit alors s'inquiéter des attaques menées contre cette place et songer plutôt à l'étendre aux autres sciences. Au stade du collège, pas du Collège de France, nul n'est bon ou mauvais par nature en maths, plus largement en sciences. Je passe évidemment sur les âneries sexistes. Il faut donc lutter contre ce désamour des mathématiques, dont les effets sont réels. Les derniers classements PISA alertent sur ce point. D'autant plus que les maths, par-delà leur beauté abstraite, sont au cœur des technologies avancées, essentielles à toutes les disciplines. Ce n'est pas pur hasard si les biologistes de cette maison ont laissé un étage entier à des équipes de matheux. Construire entre biologie et mathématiques un lien semblable à celui qui unit ces dernières à la physique est l'idéal poursuivi. Le vivant est mathématicien, géomètre en tout cas pour le morphogénéticien, écho de discussion avec René Thom qui m'aidait à y réfléchir en dépit de son agaçante détestation de la génétique. Le rang éminent de la France dans la discipline qu'à travers vous, Madame le Professeur, nous honorons aujourd'hui, doit aussi à la participation des meilleurs à l'enseignement supérieur, ce qui donne aux jeunes étudiants, souvent de futurs professeurs, l'occasion d'être très tôt au contact de l'élite mathématique. Implication allant jusque dans la définition des programmes, y compris pour l'enseignement secondaire, et source de mise à jour régulière, beaucoup trop lente dans les autres disciplines. Bref, les succès magnifiques des mathématiques françaises, dans lesquels vous avez pris votre part et continuerez de le faire, sont le résultat d'une culture mathématique large, sur laquelle il nous faut rester vigilants, d'une implication sociale des mathématiciens dans l'enseignement, et n'ayons garde de l'oublier, du choix assumé et courageux de faire de l'excellence le seul critère valable pour les recrutements et les promotions. Un exemple à méditer et surtout à suivre.
Voilà, donc je vais faire une présentation très brève. Donc Claire Voisin est mathématicienne. Elle était directrice de recherche de classe exceptionnelle au CNRS avant d'être élue sur la chaire de géométrie algébrique au Collège de France. Donc je pense qu'en recevant Claire Voisin parmi ses professeurs, le Collège de France remplit à merveille sa fonction principale, à savoir non seulement de montrer la recherche en train de se faire, mais aussi de permettre à un chercheur de communiquer à un public averti le savoir accumulé au cours d'années de recherche extraordinairement fructueuses. Je survole très brièvement la carrière de Claire, son admission à 19 ans à l'École normale supérieure, en passant par sa thèse en 1986 sous la direction d'Arnaud Beauville et son habilitation en 1989. Une liste impressionnante de prix et d'invitations à donner des conférences prestigieuses comme par exemple les Hermann Weyl Lectures à Princeton. et celle d'une conférence plénière au Congrès des mathématiciens, au Congrès international des mathématiciens. Si vous voulez, les congrès internationaux des mathématiciens ont lieu tous les 4 ans et ils rythment, on peut dire, la vie des mathématiciens dans le monde entier. Et une fois tous les 4 ans, il y a pas mal de conférenciers invités, mais il y a une poignée de conférenciers invités à donner une conférence plénière. Donc Claire a été invitée au Congrès international en Inde en 2010 à donner une conférence plénière, et c'est l'année où elle a été élue à l'Académie des sciences. L'année de son élection au collège, elle dirigeait à l'Institute of Advanced Studies à Princeton une année spéciale sur la géométrie algébrique. Ses travaux contiennent de nombreuses percées spectaculaires qui ont fait considérablement avancer la compréhension des variétés algébriques au sein des variétés kehleriennes et au sein des variétés différenciables. Parmi ces percées, par exemple, c'est elle qui a montré la première que si on étend la conjecture de Hodge, qui est une conjecture fondamentale en géométrie algébrique, si on l'étend du cadre des variétés projectives au cadre des variétés kehleriennes, qui en fait presque conceptuellement est le bon cadre, eh bien, c'est elle qui a montré que cette conjecture n'est pas vraie en donnant un contre-exemple extraordinaire en dimension 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Une autre de ces percées spectaculaires qui correspond au titre de son exposé aujourd'hui, c'est l'existence de variétés kehleriennes compactes qui n'ont pas le même type d'homotopie que des variétés projectives. Donc, je veux dire, c'est des percées extraordinaires. Claire Voisin possède à la fois une puissance technique incomparable et une créativité qui lui a permis d'ouvrir de nouvelles voies en géométrie algébrique. Je lui cède la parole en la félicitant pour son élection.
Donc, merci pour cette introduction. Monsieur l'administrateur, chers collègues et amis, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les professeurs de mathématiques du Collège de France, Alain Cohn, Pierre-Louis Lyons et Jean-Christophe Yocos, pour m'avoir proposé de candidater sur une chaire de géométrie algébrique, et l'Assemblée des professeurs pour m'y avoir élu. Les mathématiciens du Collège de France sont de très grandes figures des mathématiques, particulièrement dans mon domaine, Jean-Pierre Serre, dont l'œuvre a eu un immense impact sur la géométrie algébrique et sur ses développements ultérieurs par Grothendieck. Jean Leray, de son côté, a influencé indirectement, mais de façon inestimable, les développements du sujet en posant les fondements de la théorie des faisceaux. Et je suis donc infiniment honorée par la confiance qui m'est ainsi accordée. Voilà donc pour les remerciements. Et donc, voilà le sujet de mon exposé. J'en ai choisi de parler de topologie des variétés algébriques complexes. C'est une partie de mon domaine de recherche qui touche à des domaines extérieurs à la géométrie algébrique, comme la topologie, la géométrie différentielle, la géométrie analytique. Donc j'ai fait un plan qui correspond à peu près au mot du titre, et donc on va commencer par la géométrie complexe. Alors, la géométrie complexe, ça veut dire qu'on fait de la géométrie sur le corps des nombres complexes. Un nombre complexe, c'est un nombre qui est composé de deux nombres réels, x plus y, x c'est la partie réelle et y la partie imaginaire. Et le nombre i qui apparaît, c'est racine carrée de moins 1. Donc pour multiplier les nombres complexes, on applique les règles usuelles de l'algèbre, et chaque fois qu'on rencontre i au carré, on le remplace par moins 1. Il y a une autre manière de voir la multiplication par un nombre complexe, qui est plus géométrique. Le nombre complexe a un module R et un argument, donc R c'est racine carrée de x2 plus y2, et un argument θ qui est tout simplement l'angle formé par le vecteur xy avec la droite horizontale. Et à ce moment-là, la multiplication par z, c'est de la similitude, donc composée de l'homothétie de rapport R et de la rotation d'angle θ. Alors, donc on a un corps, et en particulier, donc on peut parler d'espace vectoriel sur ce corps. Qui dit espace vectoriel dit multiplication par scalaire. Et quand on restreint la multiplication des scalaires à R, donc au réel contenu dans C, on obtient en particulier un R espace vectoriel. Donc si je parle de quelque chose qui est de dimension n sur C, j'obtiens un R espace vectoriel qui est de dimension 2n sur un R. Et inversement, partons d'un espace vectoriel de dimension 2n sur R, que faut-il ajouter pour en faire un C espace vectoriel? Et bien, comme on a déjà la multiplication scalaire par des réels, ce qu'il faut ajouter, c'est la multiplication par i. Et ça sera donné par un endomorphisme de l'espace vectoriel V, R linéaire, et qui satisfait l'équation I au carré égale moins des entités, qui est l'équation satisfaite par I. Alors, excusez-moi. Non, on quitte le domaine de l'algèbre linéaire et on va parler de fonctions holomorphes. Je considère une fonction, mettons, de classe C1, définie sur un ouvert de R2 et à valeur dans R2. J'identifie R2 à C. Et donc on a le différentiel de cette fonction à chaque point. C'est une application linéaire de R2 dans R2 dont la matrice est donnée par les dérivées partielles de la fonction. Et la fonction est dite holomorphe si cette différentielle est C linéaire en chaque point. Et dire qu'elle est C linéaire, c'est dire qu'elle est nécessairement la multiplication par un nombre complexe. Et ce nombre complexe, on le note f' de z. Alors parfois on parle également de transformation conforme, parce que du fait que la différentielle est la multiplication par un nombre complexe en chaque point, ça veut dire qu'elle préserve les angles. Et c'est ça qui... Donc là, j'ai mis un dessin que j'ai pris, j'avoue, sur Internet, qui montre l'effet d'une application holomorphe. Ça, infinitésimalement, en chaque point, si vous regardez ce qui se passe, la grille, elle est globalement déformée, mais en chaque point, infinitésimalement, elle garde son orthogonalité. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça parfois aussi transformation conforme. Alors, les exemples très simples de fonctions holomorphes sont donnés par les polynômes d'une variable complexe. Et dans ce cas, on calcule, en appliquant la formule du binôme, que la dérivée P' de z est donnée par la formule usuelle de dérivation des polynômes qu'on apprend pour des polynômes d'une variable réelle, par exemple. Alors maintenant vient un théorème fondamental dans le sujet qui est une conséquence de la formule de Cauchy montrée par Cauchy en 1831. Donc la formule de Cauchy, c'est la formule moyenne pour les fonctions holomorphes. Et ce que dit Cauchy, c'est qu'une fonction holomorphe, une fonction est holomorphe si et seulement si elle est analytique complexe au voisinage de chaque point. Analytique complexe, c'est plus fort qu'analytique réelle, parce que analytique réelle, ça dirait simplement que la fonction est localement la somme de sa série de Taylor, mais analytique complexe, ça dit que la série de Taylor est une série de la variable complexe et non pas des deux variables, la variable complexe z et non pas des deux variables x, y réelles associées à z. Donc, ce que dit ce théorème, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de fonctions holomorphes que ça. Elles sont toutes obtenues comme des limites de polynômes. Alors ça permet un peu de situer le sujet, le sujet dont on va parler, le sujet sur lequel je travaille. Très grosso modo, on peut dire que la géométrie algébrique, c'est un domaine où on étudie les polynômes, ou les espaces sur lesquels les fonctions naturellement définies sont des polynômes. Et la géométrie analytique, eh bien c'est un domaine où on étudiera les fonctions holomorphes ou les espaces sur lesquels naturellement sont définies les fonctions holomorphes. Alors j'ai mis la variante fonction rationnelle. Fonction rationnelle, c'est les quotients de polynômes, c'est l'opération naturelle à faire. Fonction méromorphe, c'est la variante des fonctions holomorphes où on autorise les quotients de deux fonctions holomorphes. Alors maintenant, on veut. Ça c'était tout à fait local comme définition. En géométrie, on aime avoir une vision globale des choses. Il y a la notion de variété qui est partagée, enfin qui est en commun à tous les géomètres, géomètres de toutes sortes, géomètres différentiels, aussi les topologues. La notion de variété part du fait qu'on aime avoir des coordonnées, vraiment penser des coordonnées cartésiennes. Quand je dis on, c'est pas seulement les mathématiciens, c'est aussi les voyageurs, les géographes. Les coordonnées, c'est un moyen de paramétrer des points d'un espace par une suite de nombres. Donc c'est très agréable. Alors la manière dont les mathématiciens l'utilisent est un peu spéciale, c'est que nous aimons utiliser les coordonnées pour faire de ce qu'on appelle le calcul différentiel, par exemple différencier les fonctions. Donc ça c'est une très bonne idée d'avoir des coordonnées, mais le problème c'est que la plupart des espaces intéressants n'admettent pas de système global de coordonnées, même en particulier la sphère, c'est pas de coordonnées globales, vous ne pouvez pas la mettre à plat. Sans créer une déchirure. Donc, qu'à cela ne tienne, on fait exactement comme les géographes, on va se contenter d'avoir des coordonnées localement et de couvrir tout notre espace par ce qu'on appelle des ouverts, techniquement, sur lesquels on a des coordonnées. Alors, lorsqu'on fait cette opération, encore une fois comme en géographie, donc ces ouverts où on a des coordonnées, on va les appeler des cartes, et ces ouverts vont se chevaucher. Et lorsque deux cartes s'intersectent ou se chevauchent, on est dans la situation que j'ai montrée ici, on a sur l'intersection des deux cartes, on a deux systèmes de coordonnées, un donné par la première carte et un donné par la seconde carte. Et ce qu'on appelle les applications de changement de carte, ce sont les applications qui décrivent comment on passe d'un système de coordonnées à l'autre. Lorsque les applications de changement de carte sont continues, on a une variété topologique, c'est déjà intéressant, ça sélectionne déjà une classe d'espace topologique tout à fait intéressante. Mais pour faire du calcul différentiel et pour continuer mon exposé, on s'intéresse à des variétés différenciables. Et dans ce cas, on demande que les changements de carte, phi, donc exprimant les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, soient des fonctions différentielles, soient des applications différentielles. Alors une fois qu'on a ça, alors le différentiel, on peut ensuite ajouter classe CK, classe C infini, analytique, etc. Et essentiellement, les différents types de géométrie vont différer selon simplement la classe de régularité de ces applications. Alors une fois qu'on a ces changements de carte différentiables, on peut par exemple parler d'espace tangent en chaque point. Il faut vraiment penser à un espace vectoriel accroché à chaque point de notre variété. C'est l'espace vectoriel de par exemple de toutes les vitesses ou toutes les vélocités de trajectoires différenciables dessinées sur la variété et passant par le point considéré. Et comment on va dire qu'une trajectoire est différenciable? Eh bien justement, on va se placer dans des coordonnées local qui identifie notre espace à un ouvert de RN. Et comme on a choisi comme nos changements de carte sont différenciables, eh bien, la différenciabilité de ces trajectoires ne dépendra pas du choix de coordonnées. Donc on continue comme ça. Et alors une fois qu'on a cette notion d'espace tangent qui est tout à fait cruciale, on peut mettre des structures supplémentaires. La plus classique, évidemment, étant la notion de métrique riemannienne, où on met une métrique sur l'espace tangent à chaque point, une métrique, c'est-à-dire une structure d'espace vectoriel euclidien, produit scalaire. Et pour mon exposé, une autre structure qui est moins courante, c'est la notion de structure presque complexe, où on met une structure de ces espaces vectoriels sur l'espace tangent en chaque point. Donc, comme je l'ai dit dans le transparent précédent, qu'est-ce que c'est de mettre une structure de ces espaces vectoriels? C'est d'avoir un endomorphisme I dont le carré est moins l'identité. Alors, pour l'instant, les points X ont l'air de se promener, enfin, d'être complètement indépendants, c'est pas tout à fait vrai. Ici, on va... lorsqu'on a des coordonnées, on va avoir mettons XI, on va avoir une base commune pour tous les espaces vectoriels tangents en chaque point, à savoir les opérateurs delta sur delta XI. Et donc, dans cette base, on écrit la matrice de I. Ça va donner une matrice dépendante du point, I de X. Et bien entendu, on va demander qu'elle soit au moins continue, de préférence différenciable. Maintenant, je me rapproche de plus en plus du sujet. On va parler de variétés complexes. Donc, une variété complexe, c'est une variété sur laquelle on a sélectionné des cartes mais qui sont à valeur dans des ouverts de Cn, donc bien entendu Cn c'est R2n, donc ça nous donne aussi des cartes à valeur dans R2n, mais on les écrit sous la forme Z1, Zn, et les Zi, ce sont des nombres complexes. Et le point important, c'est qu'on va demander que les applications phi de changement de coordonnées, que j'ai décrites précédemment, soient des applications holomorphes. Maintenant, il y a une géométrie intermédiaire qui est la géométrie. Il y a une application que j'explique ici, qui est que si on a une structure complexe, on a une structure presque complexe, comme j'ai expliqué dans le transparent précédent. La raison est la suivante. Donc, si on a une structure complexe, on a sélectionné des cartes à valeur dans Cn. Ça veut dire que dans notre espace, on peut considérer que localement, on se promène dans Cn. Et à ce moment-là, localement, on identifie aussi l'espace tangent en chaque point à Cn lui-même. Et elle est là, notre structure complexe. Cn a une structure complexe, donc ça nous met une structure complexe sur l'espace tangent. Et il se trouve qu'elle est indépendante du choix de coordonnées, précisément parce que les changements de coordonnées étant holomorphes, leur différentiel est C-linéaire, donc préserve on voit C-linéairement le Cn sur un autre Cn dans un autre système de coordonnées. Donc structure complexe entraîne structure presque complexe, et c'est tentant de se demander si inversement ce ne serait pas équivalent. Donnons-nous une structure presque complexe, existe-t-il, vient-elle d'une structure complexe? Alors, une autre manière de formuler, d'ailleurs, c'est existe-t-il un système de coordonnées réelles dans lesquelles, pour lesquelles la matrice I de l'opérateur de structure presque complexe est constante, ne dépend plus du point. Ça, c'est tout à fait équivalent comme problème. Et la réponse est très intéressante, je veux dire intéressante en elle-même, mais aussi historiquement, parce qu'elle explique un peu la manière dont le sujet s'est développé. La réponse est oui, si on est en dimension complexe 1, c'était sûrement dû à Riemann, bon, peut-être avec des hypothèses de régularité plus fortes. Dans ce cas-là, si on se donne une structure presque complexe, sur une surface dite de Riemann, eh ben, on a une structure complexe. Et par contre, Newlander et Nierenberg ont dégagé en 1957 un critère d'intégrabilité nécessaire et suffisant sur l'opérateur I de structure presque complexe pour garantir que la structure presque complexe vient d'une structure complexe. Donc je termine en signalant un problème qui est très intéressant, peut-être un peu emblématique d'une certaine manière, qui concerne la relation entre presque complexe et complexe, même sur le plan topologique. Et ça illustre surtout le fait qu'on a vraiment assez peu d'outils pour parler de géométrie complexe compacte sans hypothèse supplémentaire. C'est le problème de Chern. On considère la sphère S6. S6, les sphères, c'est vraiment l'espace topologique le plus simple qu'on puisse imaginer. La sphère S6, on sait qu'elle admet une structure presque complexe et on ne sait pas si elle admet une structure complexe. On pense que non, mais bon. Donc maintenant, je vais vous décrire deux exemples très importants de variétés. Complexes. La première, ce sont justement des variétés algébriques, des choses qu'on construit à l'intérieur de la géométrie algébrique, et les autres, c'est plus délicat. Enfin, c'est plus moins simple que ça. Donc, alors, l'espace projectif, c'est une construction de géométrie algébrique, ça peut se faire sur n'importe quel corps. Là, j'ai mis R, parce que R, c'est très agréable, on peut faire des dessins, enfin, surtout si on n'a pas une trop grande dimension. Dès que c'est C, on ne peut plus... on ne peut plus faire grand-chose, mais on pourrait faire ça aussi bien sur Q ou sur n'importe votre corps favori. Bon. Donc, alors comme ensemble, l'espace projectif, par exemple RPN, la dimension N, c'est l'ensemble des droites vectorielles de Rn plus 1. Droite vectorielle, c'est une droite qui passe par 0. De même, l'espace projectif CPN, c'est l'ensemble des droites vectorielles de Cn plus 1. Alors là, j'ai fait un dessin qui montre l'espace projectif. Alors là, c'est une dimension 2, et ça, c'est vrai plus généralement. L'espace projectif est une compactification de l'espace affine. Alors j'explique plus ça comme ça avec sur le dessin, mais c'est le raisonnement est le même en général. Je prends une coordonnée, une forme linéaire Z sur mon bon, là, en l'occurrence, c'est R3. Donc j'appelle Z, et donc j'ai un hyperplan affine Z égale 1 qui est contenu dans mon R3. Cet hyperplan affine, il paramètre beaucoup des droites de mon R3, à savoir toutes celles qui ne sont pas contenues dans l'hyperplan Z égale 0. Parce que si j'ai une droite qui n'est pas contenue dans Z égale 0, dans cet hyperplan, elle va avoir un unique vecteur directeur, on le voit ici, là c'est la droite, et là c'est le point, elle rencontre cet hyperplan affine en un seul point, et donc on a une bijection comme ça, entre point de cet hyperplan affine et droite non contenue dans Z égale 0. Maintenant, il manque des droites dans mon espace projectif, il manque les droites qui sont contenues dans Z égale 0. Et c'est celle-ci que je veux ajouter, et ça prend bien la forme d'une compactification, parce que si je prends ce point et que je pars à l'infini dans une certaine direction, et bien manifestement, la droite correspondante va devenir de plus en plus horizontale, et à la fin, elle va être contenue dans, elle va tendre vers une droite contenue dans l'hyperplan Z égale 0, qui sera justement le point limite. Donc, il faut ajouter cet hyperplan à l'infini. Alors, il y a une petite subtilité dans cette construction, c'est que quand on part à l'infini dans cette direction et dans la direction opposée, eh bien, en fait, on tombe sur la même droite. C'est ce que, simplement la même droite avec deux générateurs opposés. Donc en fait, si on veut se représenter l'espace projectif RP2, il ne suffit pas d'ajouter un cercle à l'infini, il faut aussi recoller ce cercle en identifiant deux points opposés. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de se figurer ce que c'est que RP2, et dans la réalité, d'ailleurs, on ne peut pas vraiment, parce que c'est une surface non orientable, et donc ça ne peut pas se projeter comme surface dans R3. C'est pour ça que c'est difficile à visualiser. Et maintenant, bon, je n'ai parlé que d'un ensemble, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi l'espace projectif, donc maintenant c'est le CPN qui m'intéresse, est une variété complexe. Donc on va le faire avec carte et changement de coordonnées. Donc j'ai dit que chaque fois que je prenais une forme linéaire, donc sur CN plus 1, par exemple je me donne des coordonnées linéaires sur CN plus 1, XI, chaque fois que je choisis une de ces coordonnées linéaires, j'ai automatiquement cette grosse carte affine contenue dans mon CPN. Donc je vais la considérer comme une carte. Maintenant, regardons les changements de coordonnées. Donc ici, dans la première carte, on va avoir des points, donc x0, j'ai fixé la ième coordonnée égale à 1, et xn. Bon. Je regarde la droite que ça engendre. Ça engendre manifestement la même droite que le même vecteur multiplié par 1 sur xi. Bon. Mais quand je multiplie par 1 sur xi, c'est la jième coordonnée qui est fixée égale à 1. Donc j'ai exactement exhibé le changement de coordonnée entre la carte xi égale 1 et la carte xi égale 1. Donc et mes changements de coordonnées, ils sont écrits là. C'est la formule, c'est x'k égale xk sur xi. Donc là, j'ai fait le dessin pour RP1, là c'est encore plus petite dimension pour bien expliquer le calcul qu'on faisait au-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on observe maintenant, c'est que les applications de changement de carte, elles sont écrites ici, c'est x'k égale xk sur xi, elles sont clairement holomorphes, et donc c'est bien une variété complexe. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est une variété algébrique, au sens où les changements de carte sont algébriques. Ce sont des fonctions, vous voyez, c'est donné par des fonctions rationnelles. Les nouvelles coordonnées sont données par des fonctions rationnelles des anciennes coordonnées. Je dis un petit mot sur ce que sont les xi. Bon, vous voyez, ces xi, ce sont bien sûr des fonctions affines sur cette grosse partie de l'espace projectif, cet hyperplan affine. Mais en fait, si on regarde leur croissance, elles ne s'étendent pas comme fonctions holomorphes parce que l'espace projectif complexe n'admet pas de fonctions holomorphes globalement définies et non constantes, mais elles s'étendent comme fonctions méromorphes. On voit très bien d'ailleurs en regardant dans une autre carte. Et finalement, l'objet de peut-être pas de cette posée parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais de la géométrie algébrique, c'est l'étude des variétés projectives. Et donc les variétés projectives complexes, bon, là je mets complexe parce que j'ai décidé d'être sur le corps des complexes, mais comme j'ai dit, on peut être sur un autre corps, elles vont être définies par. Ce sont les variétés qui sont définies par des équations algébriques dans CPN. Je suis un peu vague sur le sens de algébrique, mais concrètement, ça veut dire que si on prend une telle variété, ces intersections avec ces ouverts affines que j'ai définis ici sont définies par des équations polynomiales en les petites xi, en les coordonnées affines. Donc je vous ai présenté l'espace projectif. Et maintenant, il y a une autre classe de variétés qui est très intéressante pour différentes raisons. Mais une des raisons, c'est que, comme vous allez le voir, bon, l'espace projectif, c'est l'espace projectif, ça ne se déforme pas, c'est notre espace ambiant, il est unique, etc. Mais les tores complexes, ils ont ce qu'on appelle du module, c'est-à-dire on peut déformer la structure complexe. Il faut vraiment y penser comme une famille de variétés plutôt qu'à une variété. Donc, la construction, au départ d'une construction de topologique, on part de R2n. Je me mets en dimension paire parce que je veux ensuite mettre une structure complexe. Donc je pars de R2n et dedans, j'ai le réseau Z2n qui est constitué des points à coordonnées entières. Bon, là, j'ai fait par exemple un dessin. J'ai mon R2, je prends le réseau engendré par E1 et E2, les points de coordonnées entières. Donc, voilà, ce sont les sommets du réseau, comme ça continue à l'infini. Bon. Et donc on a ce Z2n et on va dans R2n, on va décider d'identifier, et ça sera ça notre tore, deux points lorsque leur différence, leurs coordonnées diffèrent par des nombres entiers. Donc chaque fois que je prends un point, je le translate par un point de z de n et je décrète que ça donnera le même point dans mon tor. Alors là, par exemple, ça veut dire quoi géométriquement? Là, sur cet exemple-là, ça veut dire que tous les points qui sont là vont être identifiés aux points qui sont là. Donc je n'ai même pas besoin de m'occuper de ça. Donc mon tor, il est recouvert par ça. Mais les points sur le bord ici doivent être identifiés avec les points sur le bord. Donc ça fait un premier recollement qu'on voit apparaître ici. Ensuite, les points sur le bord rouge vont être identifiés avec les points sur le bord rouge qui est ici. Donc ça fait un deuxième recollement qui apparaît ici. Et donc notre tor, il est là. Il a évidemment beaucoup plus de géométrie que R2. Alors, pour l'instant, j'ai juste défini un tor réel. Et pour mettre une structure complexe dessus, c'est très facile. Parce qu'on choisit une structure d'espace vectoriel complexe sur R2n. Comme je l'ai dit au début, c'est donné par un endomorphisme. Je choisis un endomorphisme I de R2n qui satisfait I2 égale moins identité. Ça me donne un isomorphisme de R2n et entre R2n et Cn. Et je dis que ça met une structure de variété complexe sur mon tor. Très facile. Comment on peut mettre un système de cartes sur le tor? On va partir d'une carte ici qui est contenue dans un domaine fondamental. Ce que je veux, c'est simplement qu'il n'y ait pas deux points de la carte qui se trouvent identifiés dans le tor, c'est-à-dire ça va se produire dès que ma petite carte ici est suffisamment petite. Alors cette carte-là, elle va s'envoyer homéomorphiquement sur un ouvert de mon tor. Donc ça va donner une carte sur le tor. Et après, pour obtenir toutes les autres cartes, je vais tout simplement translater cette carte-là dans R2. Et voilà, j'en ai dessiné un certain nombre, on peut en mettre autant qu'on veut. Et ça va me donner un système de cartes pour le tor. Maintenant, si on regarde les changements de coordonnées pour ce système de cartes, elles sont tout simplement données par des translations. Et les translations, c'est holomorphe. Donc, allant de Cn dans Cn, ce sont certainement des applications holomorphes. Et donc, j'ai bien une structure complexe au sens que j'avais décrit auparavant, que j'avais demandé auparavant. Alors, j'ai dit que les tors complexes étaient extrêmement différents de l'espace projectif. Une autre raison, c'est que la plupart des tors complexes sont très très loin d'être algébriques. Enfin, on peut même montrer. Alors, quand je dis la plupart, maintenant, on a toute une famille paramétrée par le choix de cet opérateur de structure complexe. Et donc, quand je dis la plupart des tors complexes, ce que je veux dire est vrai pour la plupart des paramètres I, définissant la structure complexe, non seulement ne sont pas variétés projectives, mais en fait ne contiennent même pas de sous-variétés complexes de dimension positive. Donc on a juste, si on cherche les sous-variétés complexes, on va juste avoir des points, et puis la variété tout entière. Alors, maintenant, je voudrais parler un peu de topologie. Alors là, on oublie complètement structure complexe. La topologie, je pense à la topologie algébrique, c'est un sujet qui a débuté avec les travaux de Betti et de Poincaré. Ça permet de répondre par des moyens incroyablement élégants à des questions qui pourraient sembler relever de l'analyse. Bon, là, je regarde ces deux surfaces. Alors là, c'est la surface rouge et la surface verte. Enfin, il faut penser juste à la superficie de cette espèce de bouée. Et là, de cette espèce de bouée à deux trous. Bon. On veut montrer ces deux surfaces. On trouve un moyen de montrer que ces deux surfaces ne sont pas homéomorphes. Enfin, pas homéomorphes, ça veut dire, imaginez que ma surface soit faite d'un matériau un peu élastique, dire qu'elle serait homomorphe, ce serait dire que, bon, quitte à déformer ce matériau, je pourrais amener ces deux surfaces à se superposer exactement par une translation. Bon. Et tout le monde se rend bien compte que cette opération ne va pas être possible sans créer de déchirure, ce qu'on appelle de discontinuité. Et non seulement ça, mais tout le monde sait pourquoi. Intuitivement, tout le monde se rend bien compte que le vrai problème, c'est que là, il y a un trou, et que là, il y en a deux. Mais après, il faut formaliser ça en termes mathématiques. Et alors, une des réponses à ce problème, c'est magnifique, c'est l'homologie singulière. Mais ce n'est pas la seule réponse, on peut parler aussi de groupes fondamentaux, mais si on veut, à mon avis, l'objet le plus simple, c'est quand même l'homologie singulière, parce que c'est des groupes commutatifs, c'est ça. Alors, bon, je vais vous dire très grosso modo comment c'est fabriqué. l'homologie singulière de mon espace sigma, surface ou variété ou n'importe quoi, à coefficient dans Z, ça va être le quotient d'un énorme groupe commutatif qui est, je dis que ce sont les contours orientés de dimension i et de bord nul. Alors j'ai juste fait un dessin pour vous convaincre de ce que ça veut dire. Là, on a cet objet-là. Je note ça sous la forme sigma de gamma i. Chacun des gamma i, c'est un segment orienté. Donc en fait, la bonne théorie, pour faire marcher la théorie, il faut paramétrer. À ce moment-là, c'est la théorie des chaînes singulières. Mais bon, là, on est un peu pressé, donc on fait comme ça. Non ? Et donc, pourquoi cette chose-là, sigma de gamma i, un bord nul ? C'est que pour chaque gamma i, le bord, c'est la différence des deux points extrêmes. Et on voit que quand on fait la somme, eh bien, tous les OI sont nuls de 2 à 2. Et donc, ce truc-là, ça n'a pas de bord. Alors, on prend ces objets-là, on imagine l'analogue en dimension i, mais maintenant ça donne un groupe évidemment gigantesque, c'est pas du tout intéressant, mais on va quotienter ça, ce groupe-là, par la relation de bord, c'est-à-dire dans ce groupe-là, on va décréter que les bords sont nuls. Alors là, j'ai mon gamma, maintenant c'est un objet de dimension 2, il est également orienté, il a un bord que je note additivement, et c'est ça le coup de génie, de Poincaré, c'est cette idée de prendre ces combinaisons, d'additionner des objets géométriques comme ça. Donc on note de cette manière-là le bord de notre gamma. Là j'ai mis des signes moins parce que ça dépend de l'orientation. Donc tel que j'ai dessiné l'orientation, c'est un signe moins. Et donc on va forcer la relation. Ça c'est un bord, ça va nous dire exactement que dans le groupe, gamma 1 est égal à gamma 2 plus gamma 3. Voilà, donc. Grosso modo, c'est ça, l'homologie, HI de sigma Z. Et ça répond à notre question, parce que ce n'est pas très difficile de calculer que l'homologie de cette surface, c'est Z2, tandis que l'homologie de cette surface, c'est Z4. Donc, pas la même homologie, elles ne sont pas homéomorphes. Même, on peut dire bien plus, mais je ne vais pas trop insister. Alors, il y a une autre manière de parler de topologie, qui est plus avancée, qui nécessite d'être sur une variété différenciable, c'est en utilisant les formes différentielles. Donc quand on a une variété différenciable, on peut parler de formes différentielles. Alors, les informes, c'est juste le dual de l'espace tangent, les formes linéaires sur l'espace tangent, les zéro formes, c'est juste les fonctions. Après, ça se complique, il faut faire de la gemme multilinéaire. Et on a la différentielle extérieure qui envoie les i formes sur les i plus informes, et la cohomologie de Durham est définie comme le quotient degré k, comme j'ai de Ram un coefficient dans R, c'est le quotient de l'espace des k-formes fermées par l'espace des k-formes exactes. Donc fermé, c'est une forme annulée par la différentielle extérieure D, et les formes exactes, c'est celles qui sont dans l'image de la forme de la différentielle extérieure. Alors, maintenant, les formes différentielles, ça s'intègre aussi. C'est-à-dire, si j'ai une k-forme et si j'ai un contour orienté de dimension k, eh bien, je peux intégrer ma forme différentielle sur le contour. Et la formule de Stokes que j'ai écrite ici est miraculeuse parce qu'elle va nous dire dans ce contexte que si la forme que je choisis est fermée et si le bord du contour est de bord nul, alors l'intégrale somme sur gamma de alpha ne dépend que des classes de cohomologie que de la classe de cohomologie de alpha dans ce groupe et de la classe d'homologie de gamma dans le groupe d'homologie singulière. Donc ça c'est alors ce que une façon de formuler les choses, c'est de dire qu'on a construit de cette manière un accouplement entre l'homologie singulière, alors un coefficient réel, là j'autorise les coefficients à être réels dans la définition de l'homologie, et la cohomologie de Durham. Alors un accouplement en maths, c'est quelque chose qui on a un accouplement entre deux espaces vectoriels, c'est quelque chose qui, à partir d'un vecteur dans un espace et un vecteur dans un autre espace, produit un nombre. Et on demande que ce nombre varie linéairement en chacune des deux variables. Donc voilà, notre nombre, il est là. Et les variables, c'est alpha et gamma. Et une façon de formuler le théorème de Durham, c'est de dire que si x est une variété différenciable, cet accouplement est parfait, ce qui veut dire que cet accouplement donne un isomorphisme, identifie l'homologie à coefficient réel avec le dual de la cohomologie. Un accouplement est parfait lorsqu'il identifie chaque espace au dual de l'autre. Alors, je suis probablement déjà en retard, mais je ne peux pas m'empêcher de mentionner une preuve extraordinaire, une preuve extrêmement élégante du théorème de Durham donnée par Weyl, influencée par les idées de la théorie des faisceaux. Certaines preuves de théorème de Durham utilisent beaucoup d'analyses, en particulier par exemple la théorie des courants, une forme différentielle courant, etc. Mais dans la preuve de Weyl, il n'y a pratiquement plus d'analyse. L'analyse apparaît tout au début lorsqu'on utilise le lemme de Poincaré, qui dit que localement une forme fermée de degré strictement positif est exacte. Donc là, il y a un peu d'analyse. Et puis, un autre endroit où la preuve de Weyl utilise un petit peu d'analyse, c'est quand il fait cette construction extraordinaire qui montre qu'une variété différenciable munie d'un recouvrement adéquat est en fait le type d'homotopie d'un CW complexe qui est défini, en fait la réalisation de ce qu'on appelle le nerf du recouvrement. Donc il faut prendre un recouvrement dont tous les ouverts sont contractiles, pensez à des boules par exemple, et on demande que toutes les intersections successives soient aussi contractiles. Donc là j'ai fait ce petit dessin, ça fait exactement ça pour la sphère. J'ai recouvert la sphère par 4 calottes sphériques, la verte ici, la bleue ici, la rouge par en dessous, puis la noire en pointillé par derrière pour boucher le trou qui était là. Et donc, si vous regardez les intersections successives, on va avoir des quartiers de sphère, ensuite un triangle sphérique, tout ça c'est contractile. Et alors, maintenant on construit un CW complexe, en l'occurrence là c'est juste un tétraèdre. Donc à chaque ouvert du recouvrement, on associe une lettre, un point. Lorsque deux ouverts s'intersectent, on met une arête. Lorsque trois ouverts s'intersectent, on met une face et on continue. Bon, là, dans mon affaire, ça s'arrête à 3 parce que les 4 ne s'intersectent pas. Et la chose extraordinaire, le résultat extraordinaire, c'est que cet objet-là, le tétraèdre, il est en fait dans le cas présent, il est homéomorphe à la sphère. Donc ça, c'est vraiment une chose assez remarquable. Alors là, j'ai voulu inclure, bien que ce ne soit pas sur le plan logique strictement nécessaire pour cet exposé, mais en manière d'hommage au professeur du Collège de France, qui est Jean-Pierre Serre et Jean Leray, parler un petit peu de cosmologie des faisceaux, parce que historiquement, ça a été vraiment un cap essentiel pour le développement ultérieur de la géométrie algébrique. Alors, c'est très difficile, je sais ça d'expérience, de convaincre les analystes que la théorie des faisceaux est intéressante. Mais pour les géomètres algébristes, c'est vraiment très important. C'est simplement une manière de parler des fonctions sur une variété. Sauf que on s'intéresse à des cas où il n'y a pas beaucoup de fonctions globalement définies. C'est typiquement le cas en géométrie algébrique ou en géométrie analytique. Comme j'ai dit, par exemple, sur une variété complexe, compacte, il n'y a pas de fonction holomorphe globalement définie, non constante. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les ouverts de la variété et toutes les fonctions d'une classe donnée définies sur ces ouverts. Donc, un faisceau, on choisit une classe de fonctions. Ça peut être des fonctions tordues, sections fibrées vectorielles, etc. Et un faisceau sur X de cette classe de fonctions, c'est quelque chose qui, à chaque ouvert de la variété, associe un groupe, ce qu'on appelle F de U, U associe F de U, qui est l'ensemble des fonctions de cette classe définie sur F. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que pour chaque fois qu'un ouvert V est contenu dans un autre ouvert, on a une application de restriction des fonctions sur U vers les fonctions sur V, et ces restrictions doivent satisfaire deux axiomes assez simples. Donc, ça paraît difficile de faire des choses extraordinaires avec ça, et pourtant, c'est le cas. Maintenant, la cosmologie des faisceaux, c'est quelque chose qui est calculé en regardant la combinatoire des recollements dans un faisceau. Ce que j'ai appelé les recollements dans un faisceau, c'est très simple. Vous prenez deux ouverts U et V dans votre variété. Vous avez l'application de restriction de F de U et de F de V vers F de U inter V. On restreint les fonctions sur U et V à l'intersection U inter V. On ne peut pas imaginer plus simple. Et c'est ça que j'appelle recollement au-dessus de l'intersection. Donc, je ne veux pas en dire tellement plus, mais pourquoi ça a été très important pour la topologie des variétés complexes ? D'abord, quand on a une variété complexe, elle vient équipée d'un faisceau, le faisceau de fonctions holomorphes, tout simplement, à U, vous associez les fonctions holomorphes sur U. Donc on a ce faisceau, et ce faisceau il contient ce qu'on appelle le faisceau constant, qui est le faisceau des applications localement constantes à valeur dans C. Et cette inclusion, si on l'étudie en cohomologie, eh bien, on est en train déjà. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que la cohomologie à valeur dans ce faisceau constant C, c'est la cohomologie au sens précédent, c'est un des avatars de la cohomologie. On a déjà eu un théorème de comparaison, mais finalement, toutes les théories cohomologiques peuvent être contenues, enfin, résumées par la cohomologie des faisceaux. Donc, la topologie nous donne la cohomologie à valeur dans C, et ça va vers la cohomologie à valeur dans ce faisceau OX. Et ça, c'est une donnée qui vient de la géométrie analytique. Et l'analyse de cette inclusion, l'analyse cohomologique de cette inclusion, en général, est appelée la suspectrale de Frobisher. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Et la troisième raison pour laquelle la théorie des faisceaux est très importante, la cohomologie des faisceaux, c'est maintenant plus à l'intérieur de la géométrie algébrique. Si on prenait une variété algébrique, même variété algébrique complexe déjà, à l'intérieur du faisceau des fonctions holomorphes, vous avez les fonctions algébriques. Donc, j'ai dit que les fonctions polynomiales sont holomorphes, mais ça fait moins de fonctions. Donc, ça fait un faisceau qui est plus petit. Donc, on a ce faisceau des fonctions algébriques. Et en plus, on a ce qu'on appelle la topologie de Zariski, qui est une topologie beaucoup plus grossière que la topologie usuelle des fonctions continues, etc. Et donc, il y a un théorème très important pour réconcilier la géométrie algébrique et la géométrie analytique, qu'on appelle familièrement le théorème principe Gapgar de Serre, qui dit que si vous êtes sur variété projective complexe, calculez la cohomologie, par exemple, de ce faisceau de fonctions algébriques pour la topologie de Zariski, c'est la même chose que calculer la cohomologie du faisceau correspondant de fonctions holomorphes pour la topologie usuelle. Donc maintenant, j'en viens à des choses vraiment plus... Bon, d'ailleurs, maintenant, on se rapproche dangereusement du sujet de mon cours de l'an prochain, qui commencera en octobre. Donc, vous parlez de variété projective et variété kellérienne. Ça a été mentionné par Alain Cohn dans son introduction. Donc je veux dire d'abord ce que c'est qu'une variété kellérienne. Donc on parle d'une variété complexe. Comme j'ai dit, il y a une structure d'espace vectoriel complexe sur l'espace tangent en chaque point. Donc on peut donner, ça a un sens de parler de métrique hermitienne sur une telle variété, ça veut dire métrique hermitienne sur l'espace tangent en chaque point. Et si vous regardez cette métrique, vous donnez cette métrique hermitienne dans des coordonnées holomorphes locales, ça va vous donner une matrice Hij qui est hermitienne, et si vous prenez la partie imaginaire de cette matrice, vous allez trouver une matrice alternée, donc qui va vous donner une deux formes sur la variété. C'est ce qu'on appelle la forme de Keller de cette métrique. Et la caractérisation des métriques kelleriennes, c'est que cette deux formes de Keller est fermée, donc annulée par la différentielle extérieure. Ces métriques kelleriennes existent toujours sur les variétés projectives. Et par ailleurs, elles existent aussi sur les tores complexes, exactement par le procédé de descente que j'ai décrit tout à l'heure. Et un théorème fondamental dû à Coday et Grand en 1954, c'est une caractérisation des variétés projectives parmi les variétés kelleriennes. Elles sont plus restreintes. Coday et Grand nous dit que pour qu'une variété kellérienne compacte soit kellérienne, il suffit qu'elle admette une forme de Keller. Donc c'est une forme fermée, donc elle a la forme de Keller, elle a une classe de cohomologie. Il faut qu'elle admette une forme de Keller dont la classe de cohomologie est entière. La classe de cohomologie entière, ça veut dire que, par exemple, l'intégrale sur tous les contours fermés et orientés de dimension 2 doit vous donner un nombre entier. Donc c'est un théorème magnifique, mais qui suggère d'une certaine manière, et aussi sur la base d'autres évidences, que peut-être la géométrie kellérienne est une sorte obtenue, par exemple que toute variété kellérienne aurait pu être obtenue en déformant la structure complexe sur une variété projective. C'est le cas pour les tores complexes, il y a des tores complexes projectifs, mais quand on les déforme, on perd la structure projective, on garde la structure kellérienne. Et en fait, par exemple, Coday et Grand a également montré que pour les surfaces, c'est le cas, toutes les surfaces kelleriennes sont des déformations des surfaces projectives. Et en fait, j'ai montré que néanmoins, il existe des variétés kelleriennes compactes qui ne sont pas homéomorphes à des variétés projectives. Alors là, j'ai fait un petit schéma pour illustrer les différentes forces en présence. Donc là, il y a la classe des variétés projectives complexes qui s'élargit en la classe de variétés compactes kellériennes et qui elle-même s'élargit en classe de variétés complexes compactes générales. Et j'ai mis des inclusions, ce sont des inclusions qui sont strictes. Non seulement elles sont strictes, c'est évident, les objets sont de plus en plus généraux, mais elles sont aussi strictes topologiquement, c'est-à-dire les types topologiques des objets qu'on a dans chaque classe ne sont pas les mêmes. Essentiellement, par exemple, pour cette inclusion stricte, c'est exactement mon théorème. Ça, c'est très facile à voir, il y a des restrictions. Alors, justement, en parlant de restrictions, il se trouve qu'il y a énormément de restrictions topologiques sur les variétés kelleriennes compactes qui sont obtenues à l'aide de ce qu'on appelle la théorie de Hodge, que je vais décrire maintenant. Et en fait, c'est le même outil qui m'a permis de montrer que les variétés projectives complexes sont encore plus restreintes topologiquement. Ici, j'ai mis une flèche rouge avec un point d'interrogation. C'est exactement le problème de Chern. En l'absence d'une métrique kellérienne, on ne sait essentiellement rien dire sur les restrictions topologiques pesant sur les variétés kelleriennes, les variétés complexes compactes. Et là, je compte en parler à la fin, enfin, donc très vite, bientôt. C'est le lien. Maintenant, à l'intérieur de la géométrie algébrique projective, on espère qu'il y a des choses très profondes qui se passent à l'aide de la théorie de Hodge, qui relève de ce qu'on appelle la théorie des motifs et qui lie la topologie avec les propriétés de notre variété en tant que variété algébrique. Alors, l'outil fondamental, comme je l'ai mentionné, c'est la théorie de Hodge. Alors, je dis très rapidement ce que ça fait, parce que, ce qu'on va avoir comme objet. En un certain sens, ça va nous donner une espèce de retour à l'algèbre linéaire. Donc, sur une variété complexe, on a la notion de forme de type PQ. Ce sont les formes qui, dans des coordonnées holomorphes, s'écrivent de cette manière, dans cette combinaison de monomes des ZI extérieurs des ZJ bar. Donc, ça, c'est la notation en multi-indice. Et on demande que les ensembles d'indices qui apparaissent, I et J, soient tous de cardinal fixés P pour I et Q pour J. Donc, ça donne les formes de type PQ et le degré, à ce moment-là, c'est P plus Q. Et le théorème de Hodge, qui est montré par de l'analyse, en utilisant la théorie des formes harmoniques, nous dit que sur une variété kellérienne compacte, si on parle d'une forme différentielle fermée, alors on peut l'écrire comme une forme exacte, qui ne change pas la classe de cohomologie, plus une somme de formes de type PQ. Bon, alors là, on doit prendre tous les types PQ possibles avec P plus Q égale le degré de alpha. Et où la partie importante de l'énoncé, c'est que les bêta PQ sont également fermés. Alors il y a un petit ajout à faire, c'est de dire que de plus, alors donc maintenant la forme alpha elle a une classe de cohomologie de Durham, elle est fermée, et les bêta PQ elles ont aussi une classe de cohomologie de Durham parce qu'elles sont fermées. Et dans une partie de l'énoncé, c'est de dire que la classe de cohomologie de chaque bêta PQ est déterminée par la classe de cohomologie de alpha. Donc une autre manière de le dire maintenant, c'est que l'espace de cohomologie complexe, donc calculée par la cohomologie de Durham, HP plus Q de XC, est la somme directe des espaces vectoriels HPQ de X qui sont définis comme étant l'ensemble des classes de cohomologie de forme fermée de type PQ. Alors voilà ce que c'est qu'une structure de Hodge, c'est cette donnée-là. Vous avez la topologie, structure de Hodge sur la cohomologie d'une variété, complexe, d'une variété projective complexe. La topologie vous donne la cohomologie à coefficient dans Z. Elle vous donne tout aussi bien la cohomologie à coefficient dans C, c'est juste changer de coefficient, donc vous faites tenseur C. Et maintenant, la géométrie complexe, elle nous donne les HPQ, la donnée de ces espaces HPQ contenus dans HK de XC. Et ça, c'est une donnée qui dépend de la structure complexe. Alors, une autre manière de voir cet outil, c'est de parler de période. Alors ça, c'est le, J'ai mis le nom de Riemann. La notion de structure de Hodge a été développée par Griffiths et Deligne à partir des années, fin des années 60. Mais je mets le nom de Riemann entre parenthèses parce que quand Riemann nous parle de période, il fait exactement des intégrales de formes holomorphes sur des cercles dessinés sur des surfaces de Riemann. Donc en fait, il est exactement en train de faire ça. Ces périodes, c'est vous prenez les intégrales des alpha PQ sur des contours fermés gamma. Et ça vous dit quelle est la position de ces espaces HPQ par rapport à la cohomologie, entière. Alors là, je vous ai montré pourquoi, pour un tore complexe, la donnée de la structure de Hodge sur la cohomologie de degré 1, c'est exactement la même chose que la donnée de la structure complexe. Je ne vais pas trop expliquer pourquoi. Là, je voudrais rapidement évoquer le contenu de mon cours à partir du mois d'octobre. Le rêve maintenant, c'est de comprendre mieux la cohomologie d'une variété algébrique. Prenons une variété algébrique complexe. Comme objet topologique, on a sa cohomologie donc, qui nous est donnée par la topologie. Et le rêve, c'est de comprendre ça via la géométrie algébrique, parce que notre variété nous est donnée comme variété algébrique. A priori, on n'a pas forcément envie de sortir de la géométrie algébrique et d'aller faire de la topologie. Il y a une partie de la cohomologie qu'on comprend quand même très bien, ce qu'on appelle la cohomologie algébrique, qui est engendrée par les classes de sous-variétés algébriques. Chaque fois que vous vous donnez une sous-variété algébrique, grosso modo, même si elle est singulière, c'est un contour fermé, ça va avoir une classe d'homologie, puis de cohomologie par Poincaré, etc. Donc, ces classes de sous-variétés algébriques, je les ai mises en vert, parce qu'on estime que c'est la partie de la cohomologie qu'on comprend bien directement par la géométrie algébrique. Mais il y a le reste, qu'on peut appeler cohomologie transcendante, qu'on ne peut pas construire directement par la géométrie algébrique. Alors, la notion de coniveau d'une variété est la suivante. On dit que le coniveau est au moins égal à K s'il existe une sous-variété Y de codimension K qui supporte toute la cohomologie transcendante de X. Donc la cohomologie de X va être la somme de classes de cohomologie algébrique plus classes d'homologie supportées sur Y. Alors, par exemple, si vous prenez l'espace projectif, on connaît très bien la cohomologie, elle est engendrée par des classes de sous-espaces projectifs de dimension intermédiaire, donc CPI, CPI plus 1, etc. Et donc, toute la cohomologie est algébrique, donc on n'a absolument pas de problème pour le coniveau, on peut prendre n plus 1 ou même l'infini si on veut. Pour un tore complexe projectif, c'est tout le contraire, il y a très peu de cohomologie algébrique, il y a toujours de la cohomologie transcendante, bien assez pour imposer que le coniveau soit 0. Et il y a une conjecture, alors sur le plan logique, la conjecture de Grothendieck, c'est la conjecture de Hodge généralisée. C'est une généralisation de la conjecture de Hodge. Et ce que j'ai écrit là, c'est un cas particulier de la conjecture de Grothendieck. Donc là, là il y a un petit raccourci. La conjecture, c'est que ce coniveau tel que défini ici, on peut le calculer en regardant les HPQ de la variété. Donc précisément, le coniveau est au moins K si on a cette annulation des HPQ dans ce domaine numérique. Alors il y a, dans un sens, c'est connu, c'est-à-dire si on sait que le coniveau est au moins K, on va avoir plein d'annulations, ça ne présente pas de difficultés. Cette conjecture est très difficile, c'est du même ordre de difficulté que la conjecture de Hodge, qui est bien sûr... Et alors pour finir, donc encore plus ambitieux, l'idée c'est que ce coniveau, on peut le calculer par des moyens en étudiant ce qu'on appelle les cycles algébriques dans une variété projective. L'idée de la théorie des cycles algébriques, c'est qu'on aimerait bien copier ce que font les topologues, mais en utilisant seulement de la géométrie algébrique. Parce que quand on calcule l'homologie singulière, par exemple, on était là avec ces contours fermés, c'est des applications continues de simplex vers la variété, on utilise des choses complètement transcendantes. Et donc l'idée, ce serait de faire la même chose, mais en utilisant seulement de la géométrie algébrique, donc a priori seulement des objets définis par des polynômes. Bon. Donc on va remplacer dans cet esprit les chaînes singulières qui apparaissaient dans la définition de la cohomologie singulière par des cycles algébriques. Donc on prend les cycles algébriques de dimension i, c'est en combinaison un coefficient entier de sous-variété algébrique de dimension i. Et pour la théorie de l'homologie, on avait la notion de bord, on quotientait le groupe des chaînes par le groupe des bords, et donc le groupe des cycles par le groupe des bords. Et là, l'analogue des bords, ça va être le groupe des cycles rationnellement équivalent à zéro. Alors, comment il est engendré? Chaque fois que vous avez une sous-variété de x de dimension i plus 1, et chaque fois que vous avez une application rationnelle de cette variété vers P1, vous prenez phi moins 1 de 0, la fibre au-dessus de 0, moins phi moins 1 de l'infini. Ça vous donne un cycle, un i-cycle, et ces objets-là vont engendrer les groupes des cycles rationnellement équivalents à 0. Il y a une chose extraordinaire, c'est que c'est ce théorème d'Abel qu'on peut considérer comme une sorte d'ancêtre du sujet, bien avant qu'on ait parlé de tout ça, qui en 1826 calcule le groupe de Chow des zéro cycles d'une surface de Riemann. Il dit que si vous prenez un zéro cycle de degré 0, eh bien, il est rationnellement équivalent à 0, donc il est nul dans ce groupe Chow 0. Si et seulement si certaines intégrales, donc vous écrivez, si et seulement si il existe un chemin de tracé sur la surface, alors maintenant il y a un petit jeu entre géométrie algébrique et géométrie analytique, un chemin tracé sur la surface de Riemann dont le bord est exactement ce zéro cycle, et tel que toutes les intégrales de forme holomorphe sur la surface de Riemann, toutes ces intégrales sur ce chemin s'annulent. Donc c'est assez fantastique parce que le CL0 c'est quelque chose de complètement algébrique et à droite vous avez des périodes, des intégrales, des choses totalement transcendantes. Et on peut dire que la conjecture de Bloch généralisée c'est quelque chose qui généralise cet énoncé, sauf malheureusement c'est une conjecture alors que l'autre c'est un théorème. L'idée c'est qu'on peut calculer le coniveau de X exactement en termes d'annulation de certains groupes de Chow sur la variété. Dans un sens, c'est connu depuis les années 84. Si on a cette information sur les groupes de Chow, alors le coniveau est au moins ce nombre-là. Et dans l'autre sens, c'est une conjecture très difficile. Juste un dernier mot. Ces deux conjectures ont l'air de se ressembler. Elles disent toutes les deux quelque chose sur le coniveau. Il y a une différence énorme, c'est que là, on dit qu'on sait calculer le coniveau en fonction des dimensions de ces espaces HPQ. Mais les HPQ, on sait les calculer. Donc cette conjecture, elle nous donne un moyen de calculer le coniveau. Puisque ça c'est la plupart des cas, on connaît cette information. Tandis que là, on veut calculer le coniveau en fonction de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette conjecture en partant du coniveau et en voyant ça comme une prédiction sur l'annulation des groupes de Chow. Voilà, Donc j'ai fini mon exposé, mais je voulais faire quelques remerciements. Je remercie tout d'abord Camille Coron et Jean-Michel Coron qui m'ont aidé à préparer cette leçon, ainsi qu'Alain Cohn, qui m'a conseillé à point nommé à son sujet. Mes remerciements vont également aux amis et collègues, ceux que j'ai rencontrés au cours de mes 30 années passées au CNRS, d'abord à Orsay, puis à l'IMJ-PRG, et ceux qui se sont déplacés aujourd'hui. Merci enfin à ma famille, Jean-Michel, Camille, Clotilde, Jennifer, Aliénor, Basile et la petite Marie, qui donnaient à ma vie une bonne partie de sa saveur et de son sens. Voilà, j'ai fini.